не пропоется за столом семи морей. Вы пропойте славу женщине моей. Вы пропойте славу женщине моей. Вы в глаза ее взгляните, как спасение свое. Вы сравните с близким берегом ее. Вы сравните с близким берегом ее. Мы земных земней и вовсе к черту сказки о богах. Просто мы на крыльях носим то, что носят на руках. Просто мы на крыльях носим то, что носят.
Radio Zone 93,8 MHz, voici la première dans notre série d'émissions sur la perestroïka en 1989. J'ai passé pour Radio Zone, pour vous si vous voulez, 2 semaines à Leningrad et Moscou au début de ce mois, où j'avais été invité pour le premier festival international du documentaire de Leningrad. J'en ai ramené beaucoup d'impressions, beaucoup de documents intéressants, des choses que j'ai hâte de vous raconter. Mais je crois que pour cette première journée, je vais plutôt faire appel à une expérience encore plus récente, ce week-end très exactement, et pas très loin d'ici, dans notre région, à Villeurbanne, où s'est déroulé un colloque extrêmement intéressant sur la situation des pays de l'Est, organisé par le Comité de solidarité avec les pays de l'Est de Lyon, et le journal Nouvelle Alternative, le journal de soutien au mouvement socialiste dissident dans les pays de l'Est. Pourquoi est-ce que je commence avec ce témoignage récolté dans un endroit un peu moins folklorique que Leningrad? Eh bien, soyons honnêtes, c'est la première fois que j'étais allé en Union soviétique. J'ai l'impression d'avoir compris 2 ou 3 choses. Mais à Lyon, j'ai rencontré des personnes qui en savent bien plus que moi et je voulais d'abord leur donner la parole à eux, et notamment à Piotr Egides, que vous allez entendre ce matin. Qui est Piotr Egides? Vous l'avez peut-être déjà entendu ses textes sur Radio Zone. C'est un tout grand bonhomme, un des patriarches de la dissidence d'Union soviétique, un homme qui s'est battu toute sa vie dans des conditions qu'on devine pour un véritable socialisme démocratique et autogestionnaire. Cela lui a valu des années de camps de concentration sous Staline, mais sa réhabilitation après la chute du stalinisme n'a pas marqué la fin de ses ennuis. Philosophe et marxiste, il aurait pu mener une vie relativement tranquille sous Brejnev. Il aurait même pu s'exprimer, dans une certaine mesure, librement en tant qu'intellectuel, mais il a voulu continuer de se battre vraiment pour une autre société. Cela lui a mené, entre autres, à faire une expérience très intéressante dont nous avons justement fait le sujet de plusieurs émissions il y a quelque temps sur Radio Zone. En effet, il a demandé de devenir directeur d'un kolkhoz, donc d'une de ces fermes coopératives ou soi-disant coopératives d'Union soviétique, afin d'essayer de mettre sa main à la pâte de la vie quotidienne, de la lutte pour un véritable socialisme. Et il en a fait d'ailleurs un livre qui va sortir sous peu en français, qui expose tout le réseau de petits pouvoirs, de petits pièges, de réseaux d'influence qui s'oppose à quelqu'un qui essaye vraiment de changer quelque chose, qui essayait de changer quelque chose dans cette société alors totalement bloquée. Enfin, Piotr Egides, poursuivant son chemin toujours droit devant lui, est arrivé à une nouvelle confrontation avec le KGB. Heureusement, les temps avaient déjà un peu changé. Alors, on lui a donné le choix très humanitaire entre les camps, une fois de plus, et l'exil. Et voilà Piotr Egides et sa femme qui se retrouvent depuis plusieurs années en exil en France. Heureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. Entre-temps est intervenue la perestroïka et Piotr Guides et sa femme ont pu rentrer pour la première fois chez eux à Moscou ces tout derniers jours. Voilà donc en quelques mots le bonhomme à qui je veux céder la parole en tout premier lieu. Personne n'est mieux habilité à parler de l'Union soviétique, de ses problèmes et de ses espoirs que lui.
Недавно, можно сказать, со мной и с моей женой, которая здесь находится, совершилось чудо, поскольку после 9 лет эмиграции мы получили, наконец, возможность посетить свою страну.
Il s'est produit récemment pour lui et pour sa femme qui est ici présente, Tamara Samsonova, un miracle, puisque depuis 9 ans qu'ils ont été chassés du RSS, ils ont eu la possibilité de visiter leur pays. Ils avaient déjà commencé à penser que c'était plus possible de voir une nouvelle fois leur pays. Et un des résultats de la perestroïka, c'est qu'ils ont eu la possibilité de visiter Moscou.
Et это уже показывает, что та борьба, которую мы, диссиденты, вели, и те муки, которые мы испытывали в лагерях, тюрьмах и психушках, не пропали даром.
Et c'est la preuve que tout ce que les batailles qu'ont menées les dissidents pendant des années, toutes les souffrances qu'ils ont eues dans les prisons et dans les camps de concentration, ça n'a pas été en vain.
Так, например, я в Москве в этот раз имел возможность говорить все то, что я говорил когда-то в самиздате, в нашем журнале «Поиски», мог говорить открыто об этом сейчас.
И в Москве он мог s'exprimer complètement librement de tout ce qu'il avait envie de dire, de tout ce qu'il écrivait avant dans les journaux самиздат, dans les journaux clandestins.
Общественников перестройки.
Il y a deux points de vue sur les prédécesseurs de la перестройка, sur lesquels il est pas d'accord.
Предшественники перестройки. Да. Ну, так, например, недавно в Копенгагене была встреча эмигрантов с...
Il y a pas longtemps à Copenhague, il y a eu une rencontre avec les militants de la перестройка. Et un des dissidents a déclaré que les participants actuels de la perestroïka ont oublié les prédécesseurs dissidents de la perestroïka. Ils ne demandent pas leur réhabilitation. Le rédacteur du journal Znamia, qui est un des participants de la perestroïka,
Baklanov, a ответил, что когда перестройка победит, много соавторов.
Quand la perestroïka gagnera, enfin, il y aura beaucoup de co-auteurs. Вот. C'était de l'humour noir.
Вместе с тем есть и другая точка зрения.
Et il y a un autre point de vue.
С которой я тоже не согласен.
Avec lequel je ne suis pas non plus d'accord.
Так, например, Лев Тимофеев, редактор самиздатского нынешнего журнала «Референдум».
Лев Тимофеев, qui est rédacteur du journal Samizdat
Référendum, сегодняшнего журнала.
Actuel, journal actuel.
Когда он был в Париже,
était à Paris, il y a pas longtemps.
Вот, на пресс-конференции у Леха Валенси, он присутствовал и заявил.
Пресс de Лех Валеза. Et donc Timofeyev a déclaré qu'en Occident, on pense que le père de la perestroïka, c'est Gorbatchev, et ce n'est pas juste à déclarer
Timofeyev.
C'est le père de la perestroïka. Et selon Timofeyev, ceux qui ont commencé la perestroïka, c'était Solzhenitsyn et les autres.
Вот. Это тоже неправильно.
Guides pense que c'est pas juste non plus de dire ça. Потому Il faut pas confondre ceux qui ont commencé et les prédécesseurs.
Перестройки, но начинателем все-таки был Горбачев.
Les dissidents ont été les prédécesseurs de la perestroïka et ceux qui l'ont commencé, ça a été quand même Gorbatchev.
Горбачев и его équipe.
Et son équipe.
Ни начинателем, ни вообще не был диссидентом.
D'après lui, Solzhenitsyn n'est pas un dissident.
Хотя его произведение «Архипелаг ГУЛАГ» имело большое значение.
Même si son livre «L'archipel du ГУЛАГ» a eu une très grande importance.
Но его идея теократического православного государства не имеет никакого отношения к современным идеям перестройки.
Ses idées sur un état
славе.
Un gouvernement ортодокс,
теократичный. Это не имеет никакого отношения к современным идеям перестройки.
Ça n'a aucun rapport avec les phénomènes actuels de la perestroïka. Mais les dissidents ont bien été les prédécesseurs de la perestroïka. Et même avant les dissidents, il y avait déjà une histoire de opposition en URSS.
Ну так, например, вопреки тому, что у нас обычно считают, что история СССР тянется Ленин, Сталин, Брежнев, Черненко, Андропов, так считается. В действительности у нас была и вторая линия развития.
De la même façon que l'histoire officielle montre que les grandes personnalités de l'histoire, c'est Lénine, Staline,
Brejnev, Chernenko, Andropov. Mais il y a une autre ligne.
Il y a aussi une autre ligne.
Bukharin, Khrushchev, Kulakov.
Горбачев,
вот. Это другая линия. Вот. И можно сказать, что эти Бухарин, Хрущев, Кулаков, это были предшественниками современной перестройки тоже.
И эта линия была justement les prédécesseurs, on peut dire aussi que c'était les prédécesseurs de la перестройка actuelle.
Вот.
Il y avait aussi la entre liée à tout ça la ligne de Trotsky qui était
кончилась в 28-м году.
C'est terminé en 28.
Вот можно сказать, что с высылкой Троцкого у нас прекратилось, до 28-го года еще было у нас общественное мнение и было общество, была открытая оппозиция. После 28-го года.
Avant 28, il y avait une opposition ouverte, et après, donc démocratique, qui pouvait s'exprimer, et après 1928... De 28 jusqu'à Khrushchev, l'opinion publique en URSS n'a pas pu s'exprimer, elle était morte. Sous Khrushchev, il y a eu le début, la renaissance de l'opinion publique.
Mais elle n'a pas
pu se développer, c'est pas le lieu de dire ici pourquoi et comment. Et sous Brejnev, a commencé à s'exprimer une opinion publique clandestine. Et elle a trouvé son moyen d'expression dans les samizdat. Le premier samizdat, c'était Grigory Pomerian, qu'on connaît très peu en Occident.
Написал он прекрасную книгу «Сны земли».
Il a écrit un admirable livre «Les songes de la terre».
Вот. Далее самиздатская книга к суду истории была книга Роя Медведева. Самиздатская книга была книга Роя Медведева к суду истории.
Un autre livre de Roy Medvedev.
К суду истории.
Dans ce livre, il a caractérisé et défini toute la période stalinienne.
И все преступления Сталина.
Et tous ses crimes.
Это очень большая книга, которая сыграла очень большую роль.
Jugement de l'histoire.
Далее были самиздатские журналы. Возникли самиздатские журналы.
Il y a eu après sont apparus les journaux самиздат.
Первым таким самиздатским серьезным самиздатским журналом был Колокол. В Ленинграде. Это первый самиздатский журнал. Да, колокол социалистического направления.
Qui avait une orientation socialiste.
Ну, их, конечно, всех арестовали.
Mais ils les ont tous arrêtés, bien entendu.
Вот, через несколько лет был создан наш журнал самиздатский, который наш, я имею в виду, тот, который я с моими друзьями создал.
Quelques années après a été créé notre journal, c'est-à-dire celui que nous avons créé avec quelques amis Poiski, Recherche.
Поиски.
Ну, немного... Je vais dire quelques mots sur ce journal.
Этот журнал был плюралистичным.
C'était un journal pluraliste.
Там были направления социалистическое, просто демократическое, христианское.
Il y avait des mouvements démocratiques, socialistes, démocratiques et paysans.
Тем не менее, наш журнал после издания пятого номера КГБ решило разгромить.
Mais après malheureusement après le numéro 5, le KGB a décidé d'interdire notre journal.
Устроили погром на нашу редколлегию.
Ils ont arrêté toute notre
Погром. Погром. Ну, разгром, погром, как сказать. Разобрали все там у нас.
Dispersé, arrêté, enfin.
Все забрали, забирали все пишущие машинки.
Ils ont emporté les machines à écrire, enfin, tout le matériel de tirage.
Бумагу.
Le papier.
И даже туалетную бумагу.
Et même le papier de toilette.
После этого арестовали самого молодого члена нашей редколлегии.
Après, ils ont arrêté le plus jeune. Oui, les arrestations, c'est j'avais mal traduit. Hein. Donc après avoir fait toutes ces opérations sur le matériel, ils ont arrêté le plus jeune auteur de notre rédaction collective, qui a été en prison pendant deux reprises.
Вот, потом...
Après, ils ont arrêté encore deux membres du comité de rédaction.
Вот, меня устроили психиатрическую экспертизу.
Ils lui ont fait une expertise psychiatrique à lui et Guides.
Самое главное, ко мне была претензия, это моя борода.
Et le reproche qu'il lui faisait, c'était sa barbe.
Значит, профессор, который делал экспертизу.
Le professeur qui a fait cette expertise.
Это Лунц, такой знаменитый КГБшник.
Un membre du KGB connu, Лунц.
Он спрашивает, ну скажите, зачем вы отпустили бороду?
Il lui a demandé pourquoi il avait laissé pousser sa barbe.
Я говорю, сейчас все молодые люди отпускают бороду, я тоже хочу быть молодым.
Et il a répondu que maintenant tous les jeunes gens se laissaient pousser la barbe et qu'ils voulaient aussi être jeunes.
Он говорит, нет, вы мне тут не морочьте голову.
Вот. Alors il a pas accepté cette explication, il lui a demandé une autre.
Он говорит, бороды у нас носят нелояльные люди.
Expliquer que ceux qui portaient la barbe, c'était ceux qui n'étaient pas loyaux vis-à-vis de l'Union soviétique.
Я ему говорю, ну хорошо, я кончу раньше. Ну хорошо, а Маркс, Ленин, Фидель Кастро? Он мне говорит, а вот, это значит, что у вас мегаломания.
Et alors, la réponse du KGB, ça a été de dire qu'il avait une mégalomanie, puisqu'il citait ces gens-là.
Да, у вас паранойя, и вас надо лечить.
Vous êtes paranoïaque et donc il faut vous guérir.
Вот, это я привожу к примеру, как мучили на диссидентов в то время.
De l'arrêter pour une troisième fois, il avait déjà été arrêté pendant 11 ans et ou alors partir en Occident.
К своим друзьям, как они
сказали. Comme ils lui ont dit.
Ну вот так я оказался на Западе.
Et c'est pour ça qu'il se retrouve à l'Ouest.
Вот. Октябрьская революция была по своей идее прекрасной социалистической советской революцией.
D'après ses idées, ses intentions, la révolution d'octobre était quelque chose de merveilleux.
Во сколько это была социалистическая революция? Первая
социалистическая. La première révolution socialiste.
И если мы критикуем нашу историю, то лишь потому, что хотим осуществления всех девизов Октябрьской революции.
Если мы критикуем, ce qui s'est passé, c'est parce que nous voulons la réalisation de tous les slogans de la révolution d'octobre.
Это 5 девизов Октябрьской революции.
Il y avait 5 девизов.
Фабрики рабочим, земля крестьянам, власть советам.
Les usines aux travailleurs, la terre aux paysans.
Власть советам,
le pouvoir aux soviets,
самоопределение нациям,
l'autodétermination des nations,
мир народам.
Et la paix au monde.
К сожалению, эти девизы, прекрасные девизы, не были осуществлены при сталинизмом, из-за сталинизма.
Ces devises n'ont pas été appliquées sous Staline.
При этом в нашей истории за 70 лет были и хорошие страницы тоже. Были и хорошие страницы. Победа над Белой армией во главе с Троцким, между прочим.
La victoire sur l'armée blanche sous la direction de Trotsky, entre parenthèses. La victoire sur le fascisme.
Великой Отечественной войне.
La grande guerre patriotique. La période de la de Khrushchev,
да.
Et d'autres pages encore.
Но вот за что действительно стыдно быть русским.
Mais ce qui nous fait honte d'être russe.
Так это по вопросу о вторжении в Чехословакию.
C'est l'intervention en Tchécoslovaquie.
Это по вопросу о вторжении в Венгрию в 56-м году.
L'intervention en Hongrie.
Это по вопросу об Афганистане, который сейчас... Вот. Это действительно позорные страницы.
C'est des pages, effectivement, qui sont
и я уже не говорю о ГУЛАГе, о котором мы говорили.
Et je parle bien entendu pas du ГУЛАГ, dont on a déjà parlé.
Короче говоря, эта история очень сложная и трагичная.
C'est une histoire très compliquée, très tragique.
Вот сейчас нужно из нее как-то выходить.
Et maintenant, il faut justement en sortir. Merci.
Voilà donc un peu situé notre personnage d'aujourd'hui, Piotr Egides, rescapé du goulag et rebelle éternel jeune avec son énorme barbe. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Karl Marx dans son état actuel. En quelques instants, on passera à des choses peut-être un peu plus vivantes, une interview que j'ai pu réaliser avec lui après un peu de la musique classique de la dissidence des années 60-70, Bulat Okudjava.
Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской. Нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Но вставая, пусть качнется, как очнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы как судьи, нарисуйте наши судьбы, нашу зиму, наше лето и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню.
Alors, ce n'est pas la première fois que M. Egides est sur cette radio.
J'oubliais.
Parce que j'ai fait une série d'émissions il y a assez longtemps, en reprenant ces articles sur les tribulations de président de Kolkhoz qui étaient publiés dans la Nouvelle Alternative. Je trouvais génial ce texte, génial.
Génial, vous dites, c'est un texte.
Génial texte.
Он читал, да?
В радио.
Нет, он читал в альтернативе.
В альтернативе и потом в радио читал.
Он читал мой текст. О, мерси. Да. Но там еще не вся книга, я тут. Мне все некогда кончить, издать эту книгу. Надо ее издать полностью. Книга еще не издана полностью.
Le problème, c'est que le livre n'a pas encore été édité dans son entièreté, donc il faudra encore que vous complétiez avec ce qui va bientôt sortir.
Avec plaisir.
Я хочу соединить то, что было тогда в деревне, с тем, что сейчас происходит в селе, и немножко добавить там.
Il voudrait établir un lien entre ce qu'il a raconté sur ses expériences de l'époque à la campagne et ce qui se passe aujourd'hui dans les régions rurales en URSS. Uh-huh. Да.
Très bien.
Ну, все, что дальше? Donnez les questions.
Justement, on pourrait commencer par là. Mm-hmm.
On va commencer par là. Qu'est-ce qui a changé depuis cette époque, si oui, si quelque chose a changé.
Что там изменилось?
Где?
На деревне.
Что изменилось?
В Союзе.
Donc ce que j'en ai retenu, c'était surtout cette image dont on a parlé d'ailleurs aussi ici, d'une situation bloquée par une série effectivement de privilèges et de une structure sociale totalement bloquée et corrompue par rapport aux intentions primitives.
Bo тогда ситуация была совсем блокирована.
Дело в том, что когда я вот сейчас был последний раз, я хотел съездить в свой колхоз посмотреть, но у меня еще не было права покидать Москву. В следующий раз я летом должен поехать в свой колхоз, и тогда у меня будет полная картина, что там изменилось.
Le problème c'est que lors de son récent séjour, il n'a pas eu en URSS, il n'a pas eu la possibilité de quitter Moscou, son visa ne lui permettait pas. Et alors qu'il aurait bien eu envie de le revoir, mais lors de son prochain séjour, durant l'été peut-être, il a bien l'intention d'aller voir ce qui se passe là-bas maintenant.
Я думаю, что сейчас и в этом колхозе, как и вообще в колхозах, происходит много изменений.
Je pense qu'à l'heure actuelle, dans ce colchoz, comme dans beaucoup d'autres colchoz, il y a beaucoup de modifications en cours.
Например, то система звеньевого подряда, который я тогда еще предлагал и который мне не дали возможность провести, сейчас она уже декретирует, сверху проводится и наоборот сейчас ее рекламируют, но не все колхозники и колхозы идут на это дело. Я сейчас объясню почему.
Par exemple, en ce moment, le système qu'il avait proposé à l'époque de travail, une forme de travail par équipe et qui lui avait été interdite, refusée, est propagée de façon très active par les autorités. On fait beaucoup de publicité autour de cela. Et paradoxalement, ce sont les colcosiens eux-mêmes qui ne sont pas très, ne s'y associent pas très volontairement. Il va tout de suite expliquer pourquoi.
Donc un système d'intéressement par équipe, en quelque sorte.
Какая это система?
Вот эта система звеньевого подряда. Звеньевой подряд. Я не знаю, как перевести на это. Семейный звеньевой подряд. И это безнарядная система безнарядная. Мадам.
C'est une expression assez difficile à traduire, qu'il va expliquer par équipe, par famille.
Звеньевой подряд. Как это перевести, не знаю. Значит так.
Подряд
звеньев. Да. Ну, значит так.
Бригады.
Бригады делятся на звенья.
Les brigades elles-mêmes sont divisées en...
Enchaînant, oui.
Вот. Делятся на звенья, так? Вот. Значит, в звене имеется тракторист, комбайнер...
Non, il y a le conducteur de tracteur, le conducteur de moissonneuse-batteuse voilà. Et les aides dont ils ont besoin.
Ce
sont des champs du colchoz. Donc jusqu'à récemment, de toute façon, au moment où il était directeur de colchoz, le système était tel que les tractoristes, les conducteurs de moissonneuses-batteuses, etc., étaient payés à la quantité d'hectares qui avait été travaillée par eux et par leurs machines, tout à fait indépendamment de la qualité de ce travail. Ce qui faisait que, et ce qui fait encore dans beaucoup d'endroits, que le président du colchoz doit vérifier en permanence la qualité du travail jour et nuit, parce qu'on travaille la nuit aussi, bien sûr, en allant vérifier dans chaque endroit en voiture la profondeur des sillons, etc., voir si le travail était fait bien jusqu'au bord du champ, et s'il n'y avait pas de bande d'essai vierge, etc. Et bien évidemment, dès que la voiture s'en allait, qu'il n'y avait plus la lumière des phares pour gêner, le travail à la douce reprenait comme auparavant.
Вот, склад колхозный.
Да-да.
И тут мы его проверяем, сколько он привез зерна, и будем ему платить за зерно, за конечный результат. Это называется звеньевой подряд.
Понятно. Et donc, ce qu'il avait proposé à l'époque, c'était d'assigner à chaque travailleur, à chaque équipe de travailleurs, un champ bien défini, alors qu'auparavant, c'était une surface affectée un peu au hasard. Et les travailleurs en question étaient censés recevoir leur salaire en fonction des résultats finaux, c'est-à-dire en fonction de la récolte au bout du compte, ainsi obtenue dans les magasins, les entrepôts du Kolkhoz.
C'est-à-dire responsabilisation et intéressement par rapport au travail qui est fait.
C'est ça.
Et est-ce qu'il pense que, justement, pour lui, la solution au problème agraire, il peut être atteint par ce genre de, justement, de réforme du système de Kolkhoz, parce que souvent on présente le problème comme la seule solution, c'est le retour à la propriété privée, grosso modo.
Я считаю, что можно проблему решить не путем распуска колхозов. Не путем распуска колхозов. То есть колхозы можно оставить, если им дать право быть колхозами. И чтобы они сами всем распоряжались, а не государство им приказывало, что делать. Тогда можно, чтобы были за звеновой подряд, чтобы звенья отвечали и так далее, и они погектарно за конечный результат. Если и чтобы они сами устанавливали цены, чтобы они сами продавали кому хотят и сколько хотят, и производили то, что они хотят.
Donc non, lui, il est tout à fait opposé à la dissolution des Kolkhoz, qui est effectivement souvent proposée en tant que solution globale du problème de l'agriculture en URSS. Il pense que les Kolkhoz doivent fonctionner de façon authentique en tant que coopérative, c'est-à-dire de la façon dont ça avait été prévu à l'origine, c'est-à-dire que ces unités économiques doivent être totalement autonomes, indépendantes, c'est-à-dire qu'elles doivent pouvoir elles-mêmes déterminer ce qu'elles produisent, à quel prix, etc. Que bien sûr, par ailleurs, les paysans qui font partie des Kolkhoz doivent avoir le droit de le quitter, et que donc effectivement la propriété agricole individuelle a parfaitement le droit d'exister dans un système socialiste, mais il est opposé à ce que cette propriété individuelle se transforme en propriété de style Kulak. C'est-à-dire à ce que les 10 paysans aient la possibilité de louer une force de travail. De son point de vue, c'est salarié. C'est à partir de ce moment-là que, de son point de vue, commence le caractère coulac, entre guillemets, d'une exploitation agricole.
Vous comprenez ?
Oui, tout à fait. mais juste en passant, vous parlez de l'intention originale des Kolkhoz. Comment ça se fait que cette intention originale s'est dévoyée?
По-вашему, как это сделалось, что
когда люди этого хотят, они загоняют во-вторых, это виноват Сталин по существу, Сталин и сталинисты, которые они все слова вообще меняют, значит, слово «колхоз» – хорошее слово, но они из него выхолостили. То есть колхоз не стал колхозом, это сделал Сталин. Он превратил фактически колхоз с самого начала, это было государственным хозяйством, а не коллективным, не кооперативным.
C'est fondamentalement la faute de la direction politique et bien sûr au premier chef de Staline et du stalinisme qui ont complètement dévoyé le sens originel du mot Kolkhoz, qui signifie en fait coopérative fondée sur la libre association des paysans. Et donc la responsabilité première en revient à la collectivisation forcée.
Et donc c'est un problème politique à l'origine, mais il pense qu'aujourd'hui il y a les conditions politiques pour réaliser une collectivisation, cette fois-ci enfin un mouvement coopératif qui est authentique.
Сейчас правительство, руководство КПСС, вот Горбачев, они стоят на пути превращения колхозов в колхозы, на пути. Но они еще не последовательно все делают для того, чтобы превратить колхозы в колхозы.
Direction soviétique et direction du PCUS, Горбачев et son équipe sont sur ce chemin, c'est-à-dire qu'effectivement ils sont engagés sur le chemin de la du fait de rendre coopératif, entre guillemets, les réellement authentiquement coopératif, les Kolkhoz. Mais ils ne sont qu'au début de ce chemin et ils n'agissent que de façon très inconséquente.
Они боятся в какой-то мере идти до конца. Боятся сейчас идти до конца, но жизнь их будет толкать идти до конца.
Ils ont peur d'aller jusqu'au bout et ils auront toujours peur s'ils ne sont pas poussés par derrière, par en bas.
Et ils pensent qu'ils vont être poussés justement. Est-ce que les paysans sont mûrs? Est-ce qu'il y a une possibilité d'un mouvement de ce type-là?
А вы думаете, что крестьянство готово так толкать?
Нет, крестьянство всегда хотело, крестьяне всегда и колхозники всегда говорили, что они никогда не требовали уйти и распустить колхозы, когда я был. Они требовали, чтобы колхоз был нашим, а не ихним, не государственным. Они всегда этого хотели, колхозники, они сейчас этого хотят.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la situation est plus compliquée qu'il y a 30 ans, quand il était président de Kolkhoz. Il y a de nouveaux facteurs qui rendent la situation complexe. À l'époque, les paysans ne voulaient pas d'une dissolution des Kolkhoz. Ils étaient simplement partisans du fait que les Kolkhoz leur appartiennent vraiment et que ce ne soit pas la propriété des gens d'en haut, de l'État, etc.
Donc maintenant, il y a un mouvement... Ils aimeraient bien avoir leur pain.
А какая теперь ситуация? Они хотят иметь свою
нет, не свои участки. Нет, не все. И далеко не все хотят иметь свои участки. Они хотят.
Bien sûr, il y a une certaine proportion des paysans veulent avoir leur lopin de terre, effectivement, mais c'est une minorité. Ils sont loin de tous vouloir la dissolution des Kolkhoz et la possession de lopin de terre individuelle.
Дело в том, что еще в колхозах сейчас осталось очень мало мужчин во многих районах, потому что все было сделано так, чтобы за все эти годы многие мужчины и все активное население ушло из колхозов. И остались старики, остались женщины, которые не могут брать себе индивидуальное хозяйство.
Le problème est le suivant, c'est qu'au cours des dernières décennies, de nombreux paysans ont quitté les colcos pour aller travailler ailleurs, ce qui fait que maintenant il reste essentiellement une couche de paysans âgés ainsi que les femmes. Et cette partie de la population paysanne est dans la capacité d'exploiter de façon individuelle les lopins de terre et préfère bien évidemment les exploitations collectives de type colcos.
Je voulais venir à une question un peu plus générale. Bon, je pense que les colcos c'est un bon exemple de certains des problèmes, mais justement à propos de l'attitude de Gorbatchev et puis déjà qu'est-ce que c'est le phénomène Gorbatchev et la perestroïka? Il y a différentes interprétations que j'ai vues, ceux qui disent que c'est bon, j'en passe sur les plus stupides, mais il y en a qui disent par exemple que c'est l'accession d'une génération de technocrates donc qui veulent refaire l'URSS depuis en haut. D'autres qui disent que c'est un peu une anticipation intelligente d'un mouvement social. Comment est-ce qu'il voit justement le... Il en a parlé brièvement hier, mais j'aimerais qu'il développe sur l'avant et après Gorbatchev, enfin, avant et après les débuts de la perestroïka. Comment il voit la filiation de l'opposition et des mouvements, enfin, de la pensée sociale en URSS.
Мои связи, прямой связи между той оппозицией, которая имеет в виду, что наша диссидентская оппозиция, и тем слоем непосредственным, который вокруг Горбачева, прямой связи нет. Есть косвенное влияние, то есть то, что мы делали, требовали и так далее, они поняли наконец, что нужно это осуществлять. Но прямой связи нет, они даже нас не хотят признавать, потому что им вроде стыдно признать, и потом они и в какой-то мере еще Горбачев боится признать. Иначе ему скажут, вот, значит, вы признаете там диссидента, вы знаете, диссидент, значит, и эти консерваторы могут использовать это против него.
Premièrement, bien sûr, il n'y a pas de lien direct entre l'opposition des années 60-70 et la couche qui est apparue autour de Gorbatchev. Il n'y a pas de relation directe, en tout cas, même s'il est évident qu'ils ont repris beaucoup des idées qui étaient développées par l'opposition et les dissidents, mais ils ne peuvent pas le reconnaître, d'une part parce qu'ils en ont un peu honte, fondamentalement, et deuxièmement parce que l'opposition conservatrice pourrait utiliser cet argument contre Gorbatchev en disant « Regardez, vous soutenez les dissidents, enfin trahison, trahison ». Alors on ne peut pas dire que Gorbatchev soit le représentant de la couche technocratique, il ne faut pas oublier qu'il est issu de l'appareil du parti, fondamentalement, et pas de la couche technocratique. Mais bien sûr, il a accédé au sommet de l'appareil du parti parce qu'il exprimait d'une certaine façon certains des intérêts de la couche technocratique en question. Par ailleurs, il est difficile de dire s'il exprime réellement les aspirations d'un mouvement social. Fondamentalement, il reste une espèce de sphinx, d'énigme. On ne peut pas savoir si il a le pouvoir, enfin il veut avoir le pouvoir pour mettre en œuvre jusqu'au bout la perestroïka, ou s'il utilise tout l'ensemble du processus de la perestroïka comme élément indispensable pour être au pouvoir, pour avoir le pouvoir.
Ну, я думаю, что у самого Горбачева происходит и будет происходить эволюция, мне кажется, в положительную сторону.
Mais il pense, il espère que pour ce qui est de Gorbatchev, il va subir une évolution dans un sens positif.
Qu'on lui fera subir une évolution.
Что?
Что он будет подлегал.
Il sera fondamentalement le sujet d'une telle évolution, même si bien évidemment par ailleurs il sera poussé par en bas, mais qu'il a suffisamment d'autonomie pour
c'est
évoluer lui-même.
C'est un bonhomme, quoi.
Est-ce que justement, comment est-ce qu'il pourrait caractériser la différence entre le programme qu'on peut, disons, actuel déclaré de Gorbatchev et le programme d'une autogestion socialiste authentique.
Какие по вашему разницы между программой Горбачева и программой настоящей
подлинного социализма
силы для самоуправления
и силами самоуправления не как студенческого социализма так можно сказать да На сегодняшний день ситуация такая, что Горбачев, в общем, стоит на позиции сочетания государственного социализма, так называемого, можно сказать, с самоуправленческим социализмом. Я думаю, с тенденцией все большего укрепления самоуправленческой стороны социализма и постепенным затуханием государственного социализма. А пока что это такое сочетание.
Сочетание традиций.
Ну, традиционного, да, совершенно верно.
Я думаю, что сегодня ситуация celle pour Gorbatchev d'une tentative de combinaison entre les éléments traditionnels de l'économie étatisée bureaucratiquement et les éléments de notre côté allant dans le sens de l'autogestion. Et il pense que Gorbatchev va appuyer les éléments qui vont le sens de l'autogestion. Il pense que la situation aujourd'hui est une situation de compromis, mais que Gorbatchev va, au fil du temps, appuyer les éléments autogestionnaires de ce compromis.
Et puis, est-ce qu'il y a des mouvements ou des, disons, au moins des écoles de pensée déjà structurées en Union soviétique, quoi, qui s'expriment, par exemple, sur l'autogestion? Est-ce que, moi, j'étais là très peu de temps, par exemple, je n'ai pas pu prendre contact avec des gens qui avaient une pensée très structurée.
Существуют ли теперь школы мышления о самоуправлении?
Школы самоуправления?
Нет, школы мысли.
Разные клубы. Есть клубы, допустим, экологистов, клубы спортивные, тоже неформальные. Есть клубы театральные. И есть клубы политические. Главная масса – это политических клубов. И политические клубы тоже делятся. В основном это клубы, которые стоят на позиции самоуправленческого социализма. Вот. Это, например, клуб «Демократическая перестройка», допустим. Вот, и они выступают против, вот нужно не путать, есть Демократический Союз и Клуб Демократической Перестройки. Uh-huh. Демократический Союз назвал себя партией, но они против, фактически выступают против социализма. Uh-huh. Вот, а эти uh-huh. стоят на позиции, и они проповедуют этот самоуправленческий, демократический, персоналистический социализм.
On peut dire qu'il existe effectivement de telles écoles de pensée, essentiellement au sein des clubs informels qui sont nés ces derniers temps, ces dernières années. Il ne faut pas oublier que dans ces clubs informels, il y a de tout. Il y a aussi bien des clubs sportifs informels, il n'y a pas seulement des clubs politiques en tant que tels. Mais bien évidemment, au sein des clubs politiques informels proprement dit, on peut dire que la tendance hégémonique est celle du socialisme autogestionnaire, au premier rang de laquelle on peut citer le club Perestroïka démocratique, à ne pas confondre par exemple avec l'Union démocratique, qui est un parti en fait, et non pas un club informel indépendant, qui est un parti qui est en fait opposé au socialisme et donc à l'autogestion.
On m'a parlé pendant que j'étais à Moscou qu'il y avait, il risquait de s'organiser une, je crois qu'ils allaient appeler ça un Front National, ce qui sonne un peu bizarre en Suisse, c'est un nom de groupement d'extrême droite, qu'un parti de ce genre-là allait se former sans doute d'ici très peu de temps. Est-ce qu'il connaît ce projet et quelle serait un peu sa nature politique?
Что такое проект Народного фронта в Москве? Потому что в Швейцарии это
Национального фронта во Франции. Mm-hmm. Тоже НФ и там НФ. Но это Национальный фронт, это Ле Пен. Народный фронт – это другое. Это хорошо. Народный фронт стоит на позициях социализма.
Le problème, c'est qu'il faut bien faire la différence entre le Front National de Le Pen en France et le Front National à Moscou. D'autant plus qu'il y a deux mots en russe qui se traduisent un peu de la même façon en français. Национальный и народный. Voilà.
Второе, нужно отличать Народный фронт от Демократического Союза, я уже говорил. Это, ну, тут тоже путаю. Демократический Союз – это такая экстремистская партия, которая призывает вернуться от Октябрьской революции к Февральской революции, то есть к буржуазному этапу.
Donc là aussi, il faut faire la différence entre l'Union démocratique, dont on vient de parler, qui est en fait un parti extrémiste qui veut mettre une croix et faire un retour en arrière sur la révolution d'octobre pour revenir à la révolution de février, et donc ce Front National.
Qui est quand même plus important.
Знаешь так, народные фронты раньше стали образовываться не в Москве, а в Прибалтике.
Les fronts nationaux, entre guillemets, sont exceptionnellement forts dans les républiques baltes. Au début, on peut dire que le Front National était plus fort.
Front populaire, ce serait mieux.
Front populaire était au début plus fort à Moscou, mais finalement, il s'est avéré que c'est en province, par exemple dans une ville comme celle de Sverdlovsk, qui est le bastion de Yeltsin, ex-membre du bureau politique, où ça s'était fortement développé avec des assises dans la classe ouvrière locale, etc. À Moscou, ça en fait, maintenant, ça n'en est qu'au tout début de sa formation.
Est-ce que j'aimerais aussi avoir son opinion par rapport à l'évolution de la situation, est-ce qu'il pense que c'était une... Non, peut-être que j'ai posé une autre question avant, par rapport à la croissance. Disons, ça c'est une question, comme vous avez pu remarquer, je suis un peu assez branché sur l'écologie. Il me semble que une question fondamentale pour une société industrielle, c'est la question de la croissance, puisque notre économie actuellement, aussi bien socialiste que capitaliste, demande la croissance, et l'écologie, de façon assez évidente, refuse à long terme ce concept. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui pensent en ces termes là-bas ou est-ce que c'est... Parce que la question écologique est tellement aiguë là-bas, il me semble qu'ils seront obligés de penser à ces questions-là.
И в печати почти тоже не было. Давно еще, когда я еще работал в Иркутске, еще в 60-е годы, Вот. Там ставился вопрос отдельными учеными о Байкале, uh-huh. вот, о загрязнении Байкала там, и так далее. Вот. Но их не слушали, их, в общем, третировали, и это не давали развивать эту тему. А сейчас уже есть движение. Но это движение, я думаю, еще народ не затрагивает, народ немного еще думает об этом, потому что до него это еще не дошло. Народ сейчас больше думает о продовольственной проблеме, как ее решить, а не о развитии, а вот о сегодняшнем дне.
Dans les années 60, quand je travaillais à Irkoutsk, il y avait bien sûr déjà des écologistes qui étaient très préoccupés par ce qui se passait là-bas, mais ils étaient durement réprimés, on ne les laissait pas s'exprimer, etc. Contrairement à maintenant, où effectivement, on leur a laissé un espace d'expression, c'est un mouvement important, mais on ne peut pas dire que ce mouvement est pénétré profondément dans la société, puisque la grande majorité des gens continuent à s'intéresser d'abord et avant tout à ce qu'il y a dans les magasins, dans les rayons, et sont préoccupés d'abord et avant tout par le problème alimentaire.
Juste une dernière question sur comment ils voient l'évolution de la situation. Moi, quand j'étais là-bas, je trouvais que les gens avaient l'air d'être extraordinairement optimistes. C'est qu'ils avaient l'air de penser qu'un retour en arrière ou un retour de manivelle, peut-être même violent, était impossible. Est-ce qu'on ne voyait pas très bien pourquoi, parce que quand même, il y a des intérêts de beaucoup de personnes qui sont heurtées.
Какая, по-вашему, будет эволюция ситуации? Потому что, когда он там был, недавно тому назад, он видел...
Во-первых, я хочу добавить к прежнему вопросу. Значит, когда я сказал, что народ не... Она правильно подсказала, Тамара, что когда я говорил, что народ не думает об экологии, то это касается страны в целом. Но те регионы, где уже опасно, например, в Армении, там очень уже народ понимает, что нужно, там они выступают, или в Прибалтике, вот, или опять же на Байкале тоже уже. Но вот, так что в отдельных регионах это делается. Так что ты ему раньше скажи об этом, потом я скажу другое.
Il voudrait d'abord rectifier ce qu'il a dit dans l'intervention précédente, à savoir que ce qu'il dit sur le rapport de l'ensemble de la population à l'écologie, c'est une indication générale. En revanche, dans les régions particulièrement frappées par des catastrophes écologiques, comme l'Arménie, le Baïkal, etc., il y a effectivement des mouvements sociaux puissants qui sont en train de se développer.
Так, второй вопрос. Есть ли возврат к старому? Конечно, еще... Да, оптимизм. Конечно... Нет еще выработанных юридических...
Le problème, c'est que jusqu'à présent, en Union soviétique, il n'y a pas de garantie juridique institutionnelle qui, comme ici, dans les pays démocratiquement déformés, si l'on peut dire, mais où existent réellement des institutions démocratiques qui ne permettent pas un retour aussi rapide à des formes dictatoriales ouvertes. Ça n'existe pas encore en URSS, mais...
За эти 4 года столько уже наговорено, столько написано о безобразиях, о коррупции, о власти номенклатуры, о преступлениях Сталина, и о том, что в этом виновата и партия, между прочим, что даже многие люди уже начинают говорить, что партия должна сама себя распустить, раз она допустила такие преступления. И поэтому у народа уже сейчас имеется смещение в сознании, что уже трудно сейчас, если кто-нибудь бы захотел повернуть назад, сейчас бы народ, наверное, уже Понятно. Не так просто допустил это.
Понятно. Mais dans les 4 ou 5 années qui viennent de s'écouler, on a tellement écrit de choses sur la corruption, sur les crimes qui ont été commis durant les dizaines d'années qui viennent de s'écouler, tellement en insistant y compris sur les méfaits du pouvoir de la nomenclatura, sur le fait que le parti lui-même était responsable, que les gens commencent à penser que dans ces conditions, le parti devrait peut-être se dissoudre, puisqu'il a été responsable tant de choses affreuses, et il commence à voir les choses de façon un peu trouble, et à penser que le processus est irréversible, tellement on a écrit de choses sur ces phénomènes négatifs.
C'est tout, je crois.
C'était donc un interview avec Piotr Aiguides, un des doyens de la dissidence et une des grandes figures de la lutte pour un socialisme autogestionnaire,
un socialisme à visage humain, une lutte qui n'est toujours pas tout à fait disparue en Union soviétique. Rendez-vous demain à la même heure, demain 10h, pour la suite de cette série sur la perestroïka en 1989. Vous écoutez Radio Zone, la radio de Ferney et bien sûr de Voltaire, 93,8 MHz. Je vous laisse maintenant, pendant le restant de cette heure, avec Bulat Okudžava, grand chansonnier de l'époque de la dissidence.
Когда метель кричит, как зверь, протяжно и сердито, не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта, не запирайте вашу. Если ляжет дальний путь, нелегкий путь представьте, дверь не забудьте распахнуть, открытой дверь оставьте, дверь не забудьте распахнуть. Открытой дверь оставьте, и уходя в ночной тиши, без долгих слов решайте, огонь сосны с огнем души в печи перемешай. Огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Пусть будет теплою стена и мягкою скамейка, дверям закрытым грош цена, замку цена копейка, дверям закрытым грош цена, замку цена копейка. Заезжий музыкант целуется с трубою, пассажи по утрам так просто ни о чем. Он любит не тебя, а помнись, Бог с тобою, прижмись ко мне плечом, прижмись ко мне плечом. Живет он третий день в гостинице район, где койка у окна всего лишь по рублю, и на своей трубе, как чайник раскаленный, вздыхает тяжело, а я тебя люблю. Трубач играет гимн, трубач потеет гам, трубач хрипит свое и кашляет хрипя, но словно лик судьбы он весь в оконной раме, да любит не тебя, а я люблю тебя. Дождусь я лучших дней и новый плащ одену, что пред тобой проплыть, как поздний лист кружа, немного валь хочу, всему давая цену, не сладко я живу, тобой лишь дорожа. Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью, заезжий музыкант играет на трубе, что мир весь рядом с ним, с его горячей медью. Судьба судьбы судьбе, судьбою о судьбе. Судьба судьбы судьбе, судьбою о судьбе. Сумерки природа, флейты, голос нервный, позднее катание. На передней лошади едет император в голубом кафтане. Белая кобыла с карими глазами, с челкой вороною. Красная попона, крылья за спиною, как перед войной. За императором едут генералы, генералы свиты. Славою увиты, шрамами покрыты, только не убиты. Следом дуэлянты, флигель-адъютанты, блещут эполеты. Все они красавцы, все они таланты, все они поэты. Все слабее звуки прежних клавесинов, голоса былые. Только топот мерный, флейты, голос нервный, да надежды злые. Все слабее запах очага и дыма, молока и хлеба. Где-то под ногами, да над головами, лишь земля и небо. Лишь земля и небо, лишь земля и небо. Девочка плачет, шарик улетел, ее утешаю. Жениха все нет, ее утешают, а шарик летит. Женщина плачет, а муж ушел к другой, ее утешают, а шарик летит. Плачет старуха, мало пожила, а шарик вернулся, а он голубой. Я вновь повстречался с надеждой, приятная встреча. Она проживает все там же, то я был далече. Все тоже на ней из поплина счастливое платье. Все так же горящий ее взор, устремленный века. Ты наша сестра, мы твои молчаливые братья, и трудно поверить.